Lucien Levenne, chapitre 45. Lucien vola à l'hôpital de N. Il se fit conduire par le portier au chirurgien de garde. Dans les cours de l'hôpital, il rencontra deux médecins. Il déclina ses noms et qualités et pria ces messieurs de l'accompagner un instant. Il mit tant de politesse dans ses manières que ces messieurs n'eurent pas l'idée de le refuser. « Bon, se dit Lucien, je n'aurais pas été en tête-à-tête avec qui que ce soit. C'est un grand point. »« Quelle heure est-il, de grâce ? » demanda-t-il au portier qui marchait devant eux. « 6h30. »« Ainsi, je n'aurais mis que 18 minutes du ministère ici, et je puis le prouver. » En arrivant auprès du chirurgien de garde, il le pria de prendre communication de la lettre du ministre. « Messieurs, dit-il aux trois médecins qu'il avait auprès de lui, on a calomnié l'administration du ministère de l'Intérieur à propos d'un blessé nommé Cortis, qui appartient, dit-on, au Parti républicain. Le mot d'opium a été prononcé. Il convient à l'honneur de votre hôpital et à votre responsabilité comme employé du gouvernement d'entourer de la plus grande publicité tout ce qui se passera autour du lit de ce blessé Cortis. Il ne faut pas que les journaux de l'opposition puissent calomnier. Peut-être ils enverront des agents. Ne trouveriez-vous pas convenable, messieurs, d'appeler monsieur le médecin et monsieur le chirurgien en chef ? On expédia des élèves internes à ces deux messieurs. Ne serait-il pas à propos de mettre dès cet instant auprès du lit de Cortis deux infirmiers, gens sages et incapables de mensonges ? Ces mots furent compris par le plus âgé des médecins présents dans le sens qu'on leur eut donné 4 ans plus tôt. Il désigna deux infirmiers appartenant jadis à la congrégation et qu'aucun consommait. L'un des chirurgiens se détacha pour aller les installer sans délai. Les médecins et chirurgiens affluèrent bien vite dans la salle de garde, mais il régnait un grand silence et ces messieurs avaient l'air mornes. Quand Lucien vit 7 médecins ou chirurgiens réunis, « Je vous propose, messieurs, leur dit-il, au nom de monsieur le ministre de l'Intérieur, dont j'ai l'ordre dans ma poche, de traiter Cortis comme s'il appartenait à la classe la plus riche. Il me semble que cette marche convient à tous. » Il y eut un assentiment méfiant mais général. « Ne conviendrait-il pas, messieurs, de nous rendre tous autour du lit du blessé et ensuite de faire une consultation, je ferai dresser un bout de procès-verbal de ce qui se sera dit, et je le porterai à monsieur le ministre de l'Intérieur. » L'air résolu de Lucien en imposa à ces messieurs, dont la plupart avaient disposé de leur soirée et comptaient la passer d'une façon plus profitable ou plus gaie. « Mais, monsieur, j'ai vu Cortis ce matin !» dit d'un air résolu une petite figure sèche et avare. « C'est un homme mort. À quoi bon une consultation ?»« Monsieur, je placerai votre observation au commencement du procès-verbal. » »« Mais, monsieur, je ne parlais pas dans l'intention que mon observation fût répétée. » »« Répétée, monsieur, vous vous oubliez. J'ai l'honneur de vous donner ma parole que tout ce qui est dit ici sera fidèlement reproduit dans le procès-verbal. » Votre dire, monsieur, comme ma réponse. Les paroles du rôle de Lucien n'étaient pas mal, mais il devint fort rouge en les prononçant, ce qui pouvait envenimer la chose. Nous ne voulons tous certainement que la guérison du blessé, dit le plus âgé des médecins pour mettre le holà. Il ouvrit la porte, l'on se mit à marcher dans les cours de l'hôpital, et le médecin objectant fut éloigné de Lucien. 3 ou 4 personnes se joignirent au cortège dans les cours. Enfin, le chirurgien en chef arriva, comme on ouvrait la porte de la salle où était Cortis. On entra chez un portier voisin. Lucien pria le chirurgien en chef de s'approcher avec lui d'un quinquet, lui fit lire la lettre du ministre et raconta en 2 mots ce qui avait été fait depuis son arrivée à l'hôpital. Ce chirurgien en chef était un fort honnête homme, et, malgré un ton d'emphase bourgeoise, ne manquait pas de tact. Il comprit que l'affaire pouvait être importante. Ne faisons rien sans M. Monod, dit-il à Levène. Il loge à deux pas de l'hôpital. Ah, pensa Lucien, c'est le chirurgien qui a repoussé par un coup de poing l'idée de l'opium. Au bout de quelques minutes, M. Monod arriva en grommelant. On avait interrompu son dîner, et il songeait un peu aux suites d'un coup de poing du matin. Quand il sut de quoi il s'agissait, « Eh bien, messieurs, dit-il à Lucien et au chirurgien en chef, c'est un homme mort, voilà tout. C'est un miracle qu'il vive avec une balle dans le ventre. Et non seulement la balle, mais des lambeaux de drap, la bourre du fusil et que sais-je, moi. Vous sentez bien que je ne suis pas allé sonder une telle blessure. La peau a été brûlée par la chemise qui a pris feu. » En parlant ainsi, on arriva au malade. Lucien lui trouva la physionomie résolue et l'air pas trop coquin, moins coquin que d'Esbach. « Monsieur, lui dit Lucien, en rentrant chez moi, j'ai trouvé cette lettre de Madame Cortis. » Madame, madame, une drôle de madame qui saura mendier son pain dans 8 jours. Monsieur, à quelque parti que vous apparteniez, res sacra misère, le ministre ne veut voir en vous qu'un homme qui souffre. On dit que vous êtes ancien militaire. Je suis lieutenant au 27e lancier. En qualité de camarade, permettez-moi de vous offrir quelques petits secours temporaires. » Et il plaça 2 napoléons dans la main que le malade sortit de dessous sa couverture. Cette main était brûlante. Ce contact donna mal au cœur à Lucien. « Voilà qui s'appelle parler, » dit le blessé. « Ce matin, il est venu un monsieur avec l'espérance d'une pension. Eau bénite de cour, rien de content. Mais vous, mon lieutenant, c'est bien différent, et je vous parlerai. » Lucien se hâta d'interrompre le blessé, et se tournant vers les médecins et chirurgiens présents, au nombre de 7, « Monsieur, dit Lucien au chirurgien en chef, je suppose que la présidence de la consultation vous appartient. » « Je le pense aussi, dit le chirurgien en chef, si ces messieurs n'ont pas d'objection. » « En ce cas, comme mon devoir est de prier celui de ces messieurs que vous aurez la bonté de désigner et de dresser un procès-verbal fort circonstancié de tout ce que nous faisons, il serait bien, peut-être, que vous fissiez la désignation de la personne qui voudra bien écrire. » Et comme Lucien entendait une conversation peu agréable pour le pouvoir qui commençait à s'établir à voix basse, il ajouta, de l'air le plus poli qu'il put, « Il faudrait que chacun de nous parlât à son tour. » Cette gravité ferme en imposa enfin. Le blessé fut examiné et interrogé régulièrement. M. Monod, chirurgien de la salle et du lit numéro 13, fit un rapport succinct. Ensuite, on quitta le lit du malade, et dans une salle à part, on fit la consultation que M. Monod écrivit, pendant qu'un jeune médecin, portant un nom bien connu dans les sciences, écrivait le procès-verbal sous la dictée de Levène. Sur 7 médecins ou chirurgiens, 5 conclurent à la mort possible à chaque instant, et certaines avant 2 ou 3 jours. 1 des 7 proposa l'opium. « Ah, voilà le coquin gagné par le général N. » pensa Levène. C'était un monsieur fort élégant, avec de beaux cheveux blonds, et portant à sa boutonnière 2 rubans énormes. Lucien lut sa pensée dans les yeux de la plupart de ces messieurs. On fit justice de cette proposition en 2 mots. Le blessé n'éprouve pas de douleurs atroces, dit le médecin âgé. Un autre proposa une saignée abondante au pied pour prévenir l'hémorragie dans les entrailles. Lucien ne voyait rien de politique dans cette mesure, mais M. Monod lui fit changer d'avis en disant de sa grosse voix et d'un ton significatif « Cette saignée n'aurait qu'un effet hors de doute, celui d'ôter la parole aux blessés. » « Je la repousse de toutes mes forces, » dit un chirurgien honnête homme. « Et moi ? Et moi ? Et moi ? Il y a majorité, ce me semble, » dit Lucien d'un ton fort animé. « Il vaudrait mieux être impassible, se disait-il, mais comment y tenir ?» La consultation et le procès-verbal fut signé à 10h15. Messieurs les chirurgiens et médecins, parlant tous de malades à voir, se sauvaient à mesure qu'ils avaient signé. Lucien resta seul avec le chirurgien géant. « Je vais revoir le blessé, » dit Lucien. « Et moi, je vais le dîner. Vous le trouverez mort, peut-être. Il peut passer comme un poulet. Au revoir. » Lucien rentra dans la salle des blessés. Il fut choqué de l'obscurité et de l'odeur. On entendait de temps à autre un gémissement faible. Notre héros n'avait jamais rien vu de semblable. La mort était pour lui quelque chose de terrible, sans doute, mais de propre et de bon ton. Il s'était toujours figuré mourir sur le gazon, la tête appuyée contre un arbre, comme Bayard. C'est ainsi qu'il avait vu la mort dans ses duels. Il regarda sa montre. « Dans une heure, je serai à l'opéra, mais je n'oublierai jamais cette soirée. »« Au revoir, » dit-il, et il s'approcha du lit du blessé. Les deux infirmiers étaient à demi couchés sur leur chaise et les pieds étendus sur la chaise percée. Ils dormaient à peu près et lui semblèrent à demi ivres. Lucien passa de l'autre côté du lit. Le blessé avait les yeux bien ouverts. « Les parties nobles ne sont pas offensées, ou bien vous seriez mort dans la première nuit. Vous êtes bien moins dangereusement blessé que vous ne le croyez. »« Bah !» dit le blessé avec impatience, comme se moquant de l'espérance. « Mon cher camarade, ou vous mourrez, ou vous vivrez, » reprit Lucien d'un ton mâle, résolu et même affectueux. Il trouvait le blessé bien moins dégoûtant que le beau monsieur aux deux croix. « Vous vivrez ou vous mourrez. »«
Il n'y a pas de « ou », mon lieutenant. Je suis un homme frit. »«
Dans tous les cas, regardez-moi comme votre ministre des Finances. »«
Comment ?
Le ministre des Finances me donnerait une pension ?
Quand je dis « moi » à ma pauvre femme. »
Lucien regarda les deux infirmiers. Ils ne jouaient pas l'ivresse. Ils étaient bien hors d'état d'entendre. Ou du moins de comprendre.
Oui, mon camarade, si vous ne jasez pas.
Les yeux du mourant s'éclaircirent et se fixèrent sur Leven avec une expression étonnante.
Vous m'entendez, mon camarade?
Oui, mais à condition que je ne serai pas empoisonné. Je vais mourir, je suis... Mais voyez-vous, j'ai l'idée que dans ce qu'on me donne...
Vous vous trompez. « D'ailleurs, n'avalez rien de ce que vous fournit l'hôpital. Vous avez de l'argent. »«
Dès que j'aurai tapé de l'œil, ces bons-là vont me voler. »«
Voulez-vous, mon camarade, que je vous envoie votre femme ?»«
Mon lieutenant, vous êtes un brave homme. Je donnerai vos deux napoléons à ma pauvre femme. »«
N'avalez que ce que votre femme vous présentera. J'espère que c'est parlé, cela. » « D'ailleurs, je vous donne ma parole d'honneur qu'il n'y a rien de suspect. »«
Voulez-vous approcher votre oreille, mon lieutenant, sans vous commander ?
Mais quoi, le moindre mouvement me tue le ventre. »«
Eh bien, comptez sur moi, » dit Lucien en s'approchant.
« Comment vous appelez-vous ? »
« Lucien Leven, sous-lieutenant au 27e de Lancier. »
« Pourquoi n'êtes-vous pas en uniforme ?
« Je suis en permission à Paris et détaché par le ministre de l'Intérieur. »«
Où logez-vous ?
Pardon, excuse, voyez-vous ?»« Rue de Londres, numéro 43. »«
Ah, le fils de ce riche banquier Van Peters et Leven ?»«
Précisément. » Après un petit silence.
« Enfin quoi, je vous crois. Ce matin, pendant que j'étais évanoui après le pansement, j'ai entendu qu'on proposait de me donner de l'opium à ce grand chirurgien si puissant. Il a juré, et puis ils se sont éloignés. J'ai ouvert les yeux, mais j'avais la vue trouble, la perte de sang. Enfin, suffit. Le chirurgien a-t-il topé à la proposition ou n'a-t-il pas voulu ?
Êtes-vous bien sûr de cela ? Dit Lucien, fort embarrassé.
Je ne croyais pas le parti républicain si alerte. »
Le blessé le regarda.
« Mon lieutenant, sauf votre respect, vous savez aussi bien que moi d'où ça vient. »
« Je déteste ces horreurs, j'abhorre et je méprise les hommes qui ont pu se les permettre !» s'écria Lucien, oubliant presque son rôle.
« Comptez sur moi, je vous ai amené 7 médecins, comme on ferait pour un général. Comment voulez-vous qu'autant de gens s'entendent pour une manigance ? Vous avez de l'argent, appelez votre femme ou un parent, ne buvez que ce que votre femme aura acheté !»
Lucien était ému. Et le malade le regardait fixement. La tête restait immobile, mais ses yeux suivaient tous les mouvements de Leven.
« Enfin quoi ? » dit le malade. « J'ai été caporal au 3e de ligne à Montmirail. Je sais bien qu'il faut sauter le pas, mais on n'aime pas être empoisonné. Je ne suis pas honteux. Et,
ajouta-t-il en changeant de physionomie,
« dans mon métier, il ne faut pas être honteux. S'il avait du sang dans les veines après ce que j'ai fait pour lui et à sa demande 20 fois répétée, le général N devrait être là, à votre place. Êtes-vous son aide de camp ?
Je ne l'ai jamais vu.
L'aide de camp s'appelle Saint-Vincent et non pas Leven, dit le blessé comme se parlant à lui-même. Il y a une chose que j'aimerais mieux que votre argent.
Dites,
si c'était un effet de votre bonté, je ne me laisserai penser que quand vous serez là. Le fils de Monsieur Leven, le riche banquier qui entretient Mademoiselle Desbrun de l'Opéra. Car voyez-vous, mon lieutenant, dit-il en élevant de nouveau la voix, quand ils verront que je ne veux pas boire leur opium, en me pensant, crac, un coup de lancette est bien vite donné, là, dans le ventre. Ça me brûle, ça ne durera pas, ça ne peut pas durer. Pour demain, voulez-vous ordonner, car il me semble que vous commandez ici. Et pourquoi commandez-vous? Et sans uniforme encore? Enfin, au moins, pensez sous vos yeux. Et le grand chirurgien puissant, a-t-il dit oui ou non? Voilà le fait.
La tête s'embarrassait.
Ne jasez pas, dit Lucien, et je vous prends sous ma protection. Je vais vous envoyer votre femme.
« Vous êtes un bien brave homme, le riche banquier Leven, avec Mademoiselle Desbrun. Ça ne triche pas.
Mais le général N.
Certainement, je ne triche pas. Et tenez, ne parlez jamais du général N, ni de personne. Et voilà 10 Napoléons.
Comptez-les-moi dans la main. Lever la tête me fait trop de mal au ventre. »
Lucien compta les Napoléons à voix basse, et en les faisant sentir comme il les mettait dans la main du blessé.
« Motus !» dit celui-ci.
« Motus, bien dit. Si vous parlez, on vous vole vos Napoléons. Ne parlez qu'à moi et quand nous sommes seuls. Je viendrai vous voir tous les jours, jusqu'à ce que vous soyez en convalescence. »
Il passa encore quelques instants auprès du blessé, dont la tête semblait se perdre. Il courut ensuite dans la rue de Braque, où logeait Cortis. Il trouva Madame Cortis entourée de commères, qu'il eut assez de peine à faire retirer. Cette femme se mit à pleurer, voulut montrer à Lucien ses enfants qui dormaient paisiblement.
« Ceci est moitié nature, moitié comédie, » pensa Lucien. « Il faut la laisser parler et qu'elle se lasse. »
Après 20 minutes de monologue et de précautions oratoires infinies, car le peuple de Paris a pris à la bonne compagnie sa haine pour les idées présentées brusquement, Madame Cortis parla d'opium. Lucien écouta 5 minutes d'éloquence conjugale et maternelle sur l'opium.
Oui, dit Lucien négligemment. On dit que les républicains ont voulu donner de l'opium à votre mari. Mais le gouvernement du roi veille sur tous les citoyens. À peine ai-je reçu votre lettre que j'ai mené 7 médecins ou chirurgiens auprès du lit de votre mari. Et voici leur consultation, dit-il en plaçant le papier dans les mains de Madame Cortis. Il vit qu'elle ne savait pas trop lire.
Qui osera maintenant donner de l'opium à votre mari? Toutefois, il est préoccupé de cette idée. Cela peut empirer son état. « C'est un homme confisqué, » dit-elle assez froidement.
« Non, madame, puisqu'il n'y a pas eu gangrène dans les 24 heures, il peut fort bien revenir. Le général Michaud a eu la même blessure. »
Etc., etc. « Mais il ne faut pas parler d'opium, tout cela ne sert qu'à envenimer les parties. Il ne faut pas que Corti se jase. D'ailleurs, donnez le soin de vos enfants à une voisine, à laquelle vous passerez 40 sous par jour. Je vais payer la semaine d'avance. Vous, madame, vous pouvez aller vous établir auprès du lit de votre mari. »
À ce mot, toute l'éloquence de la physionomie pathétique de madame Cortis sembla l'abandonner. Lucien continua. « Votre mari ne boira rien, ne prendra rien que vous ne l'ayez préparé de vos propres mains. »
« Dame, monsieur, un hôpital, c'est bien dégoûtant. D'ailleurs, mes pauvres enfants, mes orphelins, loin des yeux d'une mère, comment seront-ils soignés ?»
Etc., etc.
« Comme vous voudrez, madame, vous êtes si bonne mère. Ce qui me fâche, c'est qu'on peut le voler. »
« Qui ?»«
Votre mari. »
« Le plus souvent, je lui ai pris 22 livres et 7 sous qu'il avait sur lui. » Je lui ai rempli sa tabatière à ce pauvre cher homme, et j'ai donné 10 sous à l'infirmier.
À la bonne heure, rien de plus sage, mais sous la condition qu'il ne bavardera pas politique, qu'il ne parlera pas d'opium, ni lui ni vous. J'ai remis à monsieur Cortis 12 napoléons.
Des napoléons d'or ?
Interrompit madame Cortis d'une voix aigre.
Oui, madame, 240 francs, dit Lucien avec beaucoup d'indifférence.
« Et il ne faut pas qu'il jase.
Si je suis content de lui et de vous, je vous passerai 1 napoléon chaque jour. »«
Je dis 20 francs, » dit madame Cortis avec des yeux extrêmement ouverts.
« Oui, 20 francs, si vous ne parlez jamais d'opium. D'ailleurs, moi, tel que vous me voyez, j'ai pris de l'opium pour une blessure, et on ne voulait pas me tuer. Toutes ces idées sont des chimères. Enfin, si vous parlez... Si cela est imprimé dans quelque journal que Cortis a craint l'opium ou a parlé de sa blessure et de sa dispute avec le conscrit sur le pont d'Austerlitz, plus de 20 francs. Autrement, si vous ni lui ne jasez, 20 francs par jour.
À compter de quand ?
De demain.
Si c'est un effet de votre bonté, à compter de ce soir et avant minuit, je vais à l'hôpital. « Le pauvre cher homme, il n'y a que moi qui puisse l'empêcher de jaser. »«
Madame Morin, Madame Morin !»
dit madame Cortis en criant. C'était une voisine à laquelle Lucien compta 14 francs pour soigner les enfants pendant 7 jours. Levenne donna aussi 40 sous pour le fiacre qui allait conduire madame Cortis à l'hôpital de... Il sembla à Lucien qu'il s'était servi de façon de parler qui... étant répété, ne pouvait nullement prouver qu'il était complice de la proposition d'opium. En quittant la rue de Braque, Lucien était heureux. Il avait supposé, au contraire, qu'il serait horriblement malheureux jusqu'à la fin de cette affaire. « Je côtoie le mépris public et la mort », se répétait-il souvent, « mais j'ai bien mené ma barque. » Chapitre 41. Enfin, comme 11h03 sonnait, Lucien remonta dans son cabriolet. Il s'aperçut qu'il mourait de faim, il n'avait pas dîné et presque toujours parlé. Actuellement, il faut chercher mon ministre. Il ne le trouva pas à l'hôtel de la rue de Grenelle. Il écrivit un mot, fit changer le cheval du cabriolet et le domestique et alla au ministère des Finances. Monsieur Devez en était sorti depuis longtemps.
« C'est assez de zèle comme cela, » pensa Lucien.
Et il s'arrêta dans un café pour dîner. Il remonta en voiture après quelques minutes et fit 2 courses inutiles dans la chaussée d'Antin. Comme il passait devant le ministère des Affaires étrangères, il eut l'idée de faire frapper. Le portier répondit que monsieur le ministre de l'Intérieur était chez son Excellence. L'huissier ne voulait pas annoncer Levenne et interrompre la conférence des 2 excellences. Lucien, qui savait qu'il y avait une porte dérobée, eut peur que son ministre ne lui échappât. Il était las de courir et n'avait pas envie de retourner à la rue de Grenelle. Il insista, l'huissier refusa avec hauteur, Lucien se mit en colère. « Parbleu, monsieur, j'ai l'honneur de vous répéter que je suis porteur de l'ordre express de monsieur le ministre de l'Intérieur. J'entrerai. Appelez la garde si vous voulez, mais j'entrerai de force. J'ai l'honneur de vous répéter que je suis monsieur Leven, maître des requêtes. » Quatre ou cinq domestiques étaient accourus sur la porte du salon. Lucien vit qu'il allait avoir à combattre cette canaille. Il était fort attrapé et fort en colère. Il eut l'idée d'arracher les cordons des deux sonnettes à force de sonner. Au mouvement de respect que firent les laquais, il s'aperçut que monsieur le comte de Beausobre, ministre des Affaires étrangères, entrait dans le salon. Lucien ne l'avait jamais vu. « Monsieur le comte, je me nomme Leven, maître des requêtes. J'ai un million d'excuses à demander à votre excellence. » Mais je cherche monsieur le comte de Vez depuis 2 heures, et par son ordre express. Il faut que je lui parle pour une affaire importante et pressée.
« Quelle affaire pressée ?»
dit le ministre avec une fatuité rare et en redressant sa petite personne. « Parbleu, je vais te faire changer de ton, » pensa Lucien. Et il ajouta d'un grand sang-froid et avec une prononciation marquée, l'affaire Cortis, monsieur le comte, cet homme blessé sur le pont d'Austerlitz par un soldat qu'il voulait désarmer.
Sortez, dit le ministre au valet.
Et comme l'huissier restait, sortez donc. L'huissier sortit, il dit à Leven. Monsieur, le mot Cortis eût suffi sans les explications. L'impertinence du ton de voix et des mouvements était rare. Monsieur le comte, « Je suis nouveau dans les affaires, » dit Lucien d'un ton marqué. « Dans la société de mon père, monsieur Leven, je n'ai pas été accoutumé à être reçu avec l'accueil que votre excellence me faisait. J'ai voulu faire cesser aussi rapidement que possible un état de choses désagréable et peu convenable. »«
Comment, monsieur, peu convenable ?»
dit le ministre en prononçant du nez, relevant la tête encore plus et redoublant d'impertinence.
« Mesurez vos paroles. »« Si vous en ajoutez une seule sur ce ton, monsieur le comte, je donne ma démission et nous mesurerons nos épées. »« La fatuité, monsieur, ne m'en a jamais imposée. »
Monsieur de Vez venait d'un cabinet éloigné savoir ce qui se passait. Il entendit les derniers mots de Lucien et vit que lui, de Vez, pouvait être la cause indirecte du bruit.
« De grâce, mon ami, de grâce !» dit-il à Lucien.
« Mon cher collègue, c'est un jeune officier dont je vous parlais. N'allons pas plus loin. »
« Il n'y a qu'une façon de ne pas aller plus loin, »
dit Lucien avec un sang-froid qui cloua les ministres dans le silence.
« Il n'y a absolument qu'une façon, » répéta-t-il d'un air glacial.
« C'est de ne pas ajouter un seul petit mot sur cet incident. » et de supposer que l'huissier m'a annoncé à vos excellences.
« Mais, monsieur, » dit monsieur de Beausobre, ministre des Affaires étrangères, en se redressant excessivement.
« J'ai un million de pardons à demander à votre excellence, mais si elle ajoute un mot, je donne ma démission à monsieur de Vez que voilà, et je vous insulte, vous, monsieur, de façon à rendre une réparation nécessaire à vous.
« Allons-nous-en ! Allons-nous-en ! » s'écria monsieur de Vez fort troublé et entraînant Lucien.
Celui-ci prêtait l'oreille pour entendre ce que dirait monsieur le comte de, et il n'entendit rien. Une fois en voiture, il pria monsieur de Vez, qui commençait un discours dans le genre paternel, de lui permettre de lui rendre compte d'abord de l'affaire Cortis. Ce compte-rendu fut très long. En le commençant, Lucien avait parlé du procès-verbal et de la consultation. À la fin du récit, le ministre lui demanda ses pièces.
« Je vois que je les ai oubliées chez moi, » dit Lucien. « Si le comte de Beausobre veut faire le méchant, » avait-il pensé,
« ces pièces peuvent prouver que j'avais raison de vouloir rendre un compte immédiat au ministre de l'Intérieur et que je ne suis pas un solliciteur forçant la porte. » Comme on arrivait dans la rue de Grenelle, l'affaire Cortis étant finie, Monsieur le comte de Vèze essaya de revenir à l'éloquence onctueuse et paternelle. « Monsieur le comte, dit Lucien en l'interrompant, je travaille pour votre excellence depuis 5 heures du soir. Une heure sonne. Souffrez que je monte dans mon cabinet, qui suit votre carrosse. Je suis mort de fatigue. » Monsieur de Vèze voulut revenir aux gens paternels. « N'ajoutons pas un mot sur l'incident, dit Lucien. Un seul petit mot peut tout envenimer. » Le ministre se laissa quitter ainsi. Lucien monta en cabriolet et dit à son domestique de monter et de conduire. Il était réellement très fatigué. En passant sur le pont Louis XV, son domestique lui dit « Voilà le ministre. » Et il retourne chez son collègue malgré leur avancée. « Et sûrement je vais faire les frais de la conversation. Parbleu, je ne tiens pas à ma place. Mais s'il me destitue, je force ce fat à mettre l'épée à la main. Ces messieurs peuvent être mal élevés et impertinents tant qu'il le plaira, mais il faut choisir les gens. Avec des débats qui veulent faire fortune à tout prix et à la bonne heure, mais avec moi, c'est impossible. » En rentrant, Lucien trouva son père, le bougeoir à la main, qui montait se coucher. Malgré l'envie passionnée d'avoir la vie d'un homme de tant d'esprit, « Par malheur, il est vieux, » se dit Leven, « et il ne faut pas l'empêcher de dormir. À demain, les affaires. » Le lendemain, à 10 heures, il conta tout à son père, qui se mit à rire. « Monsieur de Vèze te mènera dîner demain chez son collègue des affaires étrangères. » « Mais voilà assez de duels dans ta vie comme ça. Maintenant, il serait de mauvais ton pour toi. Ces messieurs se sont promis de te destituer dans 2 mois, ou de te faire nommer préfet à Briançon ou Pondichéry. Mais si cette place éloignée ne te convient pas plus qu'à moi, je leur ferai peur, et j'empêcherai cette disgrâce. Du moins, je le tenterai avec quelque apparence de succès. » Le dîner chez son excellence des affaires étrangères se fit attendre jusqu'au surlendemain. Et dans l'intervalle, Lucien, toujours très occupé de l'affaire Cortis, ne permit pas que M. de Vèze lui reparlât de l'incident. Le lendemain du dîner, M. Leven père raconta l'anecdote à 3 ou 4 diplomates. Il ne tut que le nom de Cortis, et le genre de l'affaire importante qui obligeait Lucien à chercher son ministre à 1 heure du matin. « Tout ce que je puis dire sur l'heure avancée, c'est que ce n'était pas une affaire de télégraphe, » dit-il à l'ambassadeur de Russie. Quelques jours après, M. Leven surprit dans Le Monde un léger bruit qui supposait que son fils était saint-simonien. Sur quoi, à l'insu de Lucien, il pria M. de Vèze de le conduire un jour chez son collègue des affaires étrangères. « Et pourquoi, cher ami ? Je tiens beaucoup à laisser à votre excellence le plaisir de cette surprise. » Tout le long du chemin, en allant à cette audience, M. Leven se moqua de la curiosité de son ami le ministre. Il commença, sur un ton fort peu sérieux, la conversation que son excellence des affaires étrangères daignait lui accorder. « Personne, monsieur le comte, ne rend plus de justice que moi à l'habileté de votre excellence. Mais il faut convenir aussi qu'elle a de grands moyens. 40 personnages couverts de titres et de cordons que je lui nommerai au besoin, 5 ou 6 grandes dames appartenant à la première noblesse, et assez riches, grâce aux bienfaits de votre excellence, peuvent faire l'honneur à mon fils Lucien Leven, maître des requêtes, indigne, de s'occuper de lui. Ces personnages respectables peuvent répandre tout doucement qu'il est saint-simonien. On pourrait dire à aussi peu de frais qu'il a manqué de cœur dans une occasion essentielle. On pourrait faire mieux, et lui lâcher 2 ou 3 de ces personnages recommandables dont j'ai parlé, qui, étant jeunes encore, cumulent et sont aussi bretteurs. Ou bien, si l'on voulait user d'indulgence et de bonté envers mes cheveux blancs, ces personnages tels que M. le comte de, M. de, M. le baron de, qui a 40 000 francs de rente, M. le marquis, pourraient se borner à dire que ce petit Leven gagne toujours à l'écarté. sur quoi je viens, monsieur le comte, en votre qualité de ministre des Affaires étrangères, vous offrir la guerre ou la paix. » Monsieur Leven prit un malin plaisir à prolonger beaucoup l'entretien ainsi commencé. Au sortir de l'hôtel des Affaires étrangères, monsieur Leven alla chez le roi, duquel il avait obtenu une audience. Il répéta exactement au roi la conversation qu'il venait d'avoir avec son ministre des Affaires étrangères. « Viens ici, » dit monsieur Leven à son fils en rentrant chez lui, « que je répète pour la seconde fois la conversation que j'ai eu l'honneur d'avoir avec les ministres auxquels tu manques de respect. Mais pour ne pas m'exposer à une troisième répétition, allons chez ta mère. » À la fin de la conférence chez madame Leven, notre héros crut pouvoir hasarder un mot de remerciement à son père. « Tu deviens comme un, mon ami, sans t'en douter. Tu ne m'as jamais autant amusé que depuis un mois. Je te dois l'intérêt de jeunesse avec lequel je suis les affaires de bourse depuis 15 jours, car il fallait me mettre en position de jouer quelques bons tours à mes deux ministres, s'ils se permettent à ton égard quelques traits de fatuité. Enfin, je t'aime, et ta mère te dira que jusqu'ici, pour employer une phrase des livres ascétiques, je l'aimais en toi, mais il faut payer mon amitié d'un peu de gêne. De quoi s'agit-il? Suis-moi. » Arrivé dans sa chambre, « il est capital de te laver de la calomnie qui t'impute d'être saint-simonien. Ton air sérieux et même imposant peut lui donner cours. » Rien de plus simple, un bon coup d'épée. » Oui, pour te donner la réputation de duelliste. Presque aussi triste. Je t'en prie, plus de duels sous aucun prétexte. Mais que faut-il donc? Un amour célèbre. Lucien pâlit. Rien de moins, continua son père. Il faut séduire madame Grandet. Ou, ce qui serait plus cher, mais peut-être moins ennuyeux, faire des folies d'argent pour mademoiselle Julie, ou madame Gosselin, ou mademoiselle, et passer 4 heures tous les jours avec elle. Je ferai les frais de cette passion. Mais mon père, est-ce que je n'ai pas déjà l'honneur d'être amoureux de mademoiselle Raymonde? Elle n'est pas assez connue. Voici le dialogue. Leven fils est décidément avec la petite Raymonde. Mais qu'est-ce que c'est que mademoiselle Raymonde? Il faut qu'il soit ainsi. Leven fils est actuellement avec mademoiselle Gosselin. Ah diable! Est-il amant en pied? Il en est fou jaloux, il veut être seul. Et de plus, il faut forforcément que je te présente dans 10 maisons au moins, où l'on tâtera le pouls à ta tristesse saint-simonienne. Cette alternative de madame Grandet ou de mademoiselle Gosselin embarrassa beaucoup Leven. L'affaire Cortis s'était fort bien terminée, et le comte de Vèze lui avait fait des compliments. Cet agent trop zélé n'était mort qu'au bout de 8 jours et n'avait pas parlé. Lucien demanda au ministre un congé de 4 jours pour terminer quelques affaires d'intérêt à Nancy. Il se sentait depuis quelque temps une envie folle de revoir la petite fenêtre de madame de Chastelet. Après avoir obtenu le congé du ministre, Lucien en parla à ses parents qui ne trouvèrent pas d'inconvénient à un petit voyage à Strasbourg. Jamais Lucien n'eut le courage de prononcer le nom de Nancy. Pour que ton absence ne paraisse pas longue, tous les jours de soleil, vers les 2 heures, j'irai voir ton ministre, dit monsieur Leven. Lucien était encore à 10 lieues de Nancy que son cœur battait à l'incommoder. Il ne respirait plus d'une façon naturelle. Comme il fallait entrer de nuit dans Nancy et n'être vu de personne, Lucien s'arrêta à un village situé à 1 lieue. Même à cette distance, il n'était pas maître de ses transports. Il n'entendait pas de loin une charrette sur les chemins qu'il ne crut reconnaître le bruit de la voiture de madame de Chastelet. « J'ai gagné bien de l'argent par ton télégraphe, » dit monsieur Leven à son fils, « et jamais ta présence n'eût été plus nécessaire. »
Lucien trouva à dîner chez son père son ami Ernest Develroy. Il était fort triste. Son savant moral, qui lui avait promis 4 voix à l'Académie des sciences politiques, était mort aux eaux de Vichy, et après l'avoir dûment enterré, Ernest s'était aperçu qu'il venait de perdre 4 mois de soins ennuyeux et de gagner un ridicule. « Car il faut réussir !» disait-il à Lucien. « Et parbleu, si jamais je me dévoue à un membre de l'Institut, je le prendrai de meilleure santé. » Lucien admirait le caractère de son cousin. Il ne fut triste que 8 jours, et puis fit un nouveau plan et recommença sur nouveaux frais. Ernest disait dans les salons, « Je devais quelques jours de regrets sans limite à la mémoire du savant des corps. L'amitié de cet excellent homme et sa perte feront époque dans ma vie. Il m'a appris à mourir. J'ai vu le sage à sa dernière heure entouré des consolations du christianisme. C'est auprès du lit d'un mourant qu'il faut apprécier cette religion. » Etc., etc. Peu de jours après sa rentrée dans le monde, Ernest dit à Leven, « Tu as une grande passion. » Lucien pâlit. « Parbleu, tu es bien heureux. On s'occupe de toi. Il ne s'agit plus que de deviner l'objet. Je ne te demande rien. Je te dirai bientôt quels sont les beaux yeux qui t'ont enlevé ta gaieté. Fortuné Lucien, tu occupes le public. Ah, grand Dieu, qu'on est heureux d'être né d'un père qui donne à dîner et qui voit M. Pozzo di Borgo et la haute diplomatie. Si j'avais un tel père, je serais pour tout cet hiver le héros de l'amitié. Et la mort de Décor dans mes bras me serait peut-être plus utile que sa vie. Faute d'un père tel que le tien, je fais des miracles, et tout cela ne compte pas, ou ne compte que pour me faire appeler intrigant. » Lucien trouva le même bruit sur son compte chez 3 dames, anciennes amies de sa mère, qui avaient des salons du second ordre où il était reçu avec amitié. Le petit Desbacs, auquel il donna exprès quelques libertés de parler de choses étrangères aux affaires, lui avoua que les personnes les mieux instruites parlaient de lui comme d'un jeune homme destiné aux plus grandes choses, mais arrêté tout court par une grande passion. « Ah, mon cher, vous êtes heureux, surtout si vous n'avez pas cette grande passion. Quelle partie ne pouvez-vous pas en tirer? Ce vernis vous rend pour longtemps imperméable au ridicule. » Lucien se défendait du mieux qu'il pouvait, mais il se dit « Mon malheureux voyage à Nancy a tout découvert. » Il était loin de deviner qu'il devait cette grande passion à son père, qui réellement, depuis l'aventure du ministre des Affaires étrangères, avait pris de l'amitié pour lui, jusqu'au point d'aller à la bourse, même les jours froids et humides, chose à laquelle, depuis le jour où il avait eu 60 ans, rien au monde n'avait pu le déterminer. « Il finira par me prendre en guignon, » disait-il à Madame Leven, « si je le dirige trop et lui parle sans cesse de ses affaires. Je dois me garder du rôle de père, si ennuyeux pour le fils quand le père s'ennuie ou quand il aime vivement. » La tendresse timide de Madame Leven s'opposa de toute sa force à ce qu'il affublât son fils d'une grande passion. Elle voyait dans ce bruit une source de danger. « Je voudrais pour lui, disait-elle, une vie tranquille et non brillante. » « Je ne puis, répondait M. Leven. Je ne puis, en conscience. Il faut qu'il ait une grande passion, ou tout ce sérieux que vous prisez tant tournerait contre lui. Ce ne serait qu'un plat saint-simonien. Et qui sait même, plus tard, à 30 ans, un inventeur de quelque nouvelle religion. Tout ce que je puis faire, c'est de lui laisser le choix de la belle, pour laquelle il aura ce grand et sérieux attachement. Sera-ce Madame de Chastelet, Madame Grandet, Mademoiselle Gosselin, ou cette ignoble petite Raymonde, une actrice à 6 000 francs de gage ? » Il n'ajoutait pas la fin de sa pensée. « Et qui toute la journée se permet des épigrammes sur mon compte, car Mademoiselle Raymonde avait beaucoup plus d'esprit que Mademoiselle Desbrun, et la voyait souvent. » « Ah ! Ne prononcez pas le nom de Madame de Chastelet !» s'écria Madame Leven. «
Vous lui feriez faire de vraies folies. »
Monsieur Leven songeait à mesdames de Thémines et Tonielle, ses amies depuis 20 ans, et toutes deux fort liées avec madame Grandet. Depuis bien des années, il prenait soin de la fortune de monsieur de Thémines. C'est un grand service à Paris, et pour lequel la reconnaissance est sans borne, car dans la déroute des dignités et de la noblesse d'origine, l'argent est resté la seule chose, et l'argent, sans inquiétude, est la belle chose des belles choses. Il alla leur demander des nouvelles du cœur de madame Grandet. Nous ôterons à leur réponse les formes trop longues de la narration, et même nous réunirons les renseignements donnés par les deux dames, qui vivaient dans le même hôtel et n'avaient qu'une voiture, mais ne se disaient pas tout. Madame Tonienne avait du caractère, mais une certaine âpreté. Elle était le conseil de madame Grandet dans les grandes circonstances. Pour madame de Thémines, elle avait une douceur infinie, beaucoup d'à-propos dans l'esprit, et était l'arbitre souverain de ce qui convient ou ne convient pas. Sa lunette ne voyait pas très au loin, mais elle apercevait parfaitement ce qui était à sa portée. Née dans la haute société, elle avait fait des fautes qu'elle avait su réparer, et il y avait 40 ans qu'elle ne se trompait guère dans les jugements qu'elle portait sur l'effet que devaient produire les choses dans les salons de Paris. Depuis 4 ans, sa sérénité était un peu troublée par 2 malheurs. L'apparition dans la société de noms qu'on n'eût jamais dû jamais y voir, ou qu'on n'eût jamais dû voir annoncés par des laquais de bonne maison, et le chagrin de ne plus voir de place dans les régiments à tous ces jeunes gens de bonne maison qui avaient été autrefois les amis de ses petits-fils que depuis longtemps elle avait perdus. Monsieur Leven, père, qui voyait madame de Thémines une fois la semaine, ou chez lui ou chez elle, pensa qu'il fallait auprès d'elle prendre le rôle de père au sérieux. Il alla plus loin, il jugea qu'à son âge, il pouvait entreprendre de la tromper nette et de supprimer, dans l'histoire de son fils, le nom de madame de Chastelet. Il fit des aventures de son fils une histoire fort jolie, et après avoir amusé madame de Thémines pendant toute la fin d'une soirée, finit par lui avouer des inquiétudes sérieuses sur son fils, qui, depuis 3 mois qu'il était admis dans le salon de madame Grandet, était d'une tristesse mortelle. Il craignait un amour pris au sérieux, ce qui dérangerait tous ses projets pour ce fils chéri, car il faut le marier, etc. « Ce qu'il y a de singulier, lui dit madame de Thémines, c'est que depuis son retour d'Angleterre, madame Grandet est fort changée. Il y a aussi du chagrin dans cette tête-là. » Mais pour prendre les choses par ordre, voici ce que monsieur Leven apprit de mesdames de Thémines et Tonielle, qu'il vit séparément et ensuite réunis, et nous y ajouterons tout de suite ce que des mémoires particuliers nous ont appris sur cette femme célèbre. Madame Grandet se voyait à peu près la plus jolie femme de Paris, ou du moins on ne pouvait citer les 6 plus jolies femmes sans la mettre du nombre. Ce qui brillait surtout en elle, c'était une taille élancée, souple, charmante. Elle avait les plus beaux cheveux blonds du monde et beaucoup de grâce à cheval, où elle ne manquait pas de courage. C'était une beauté élancée et blonde comme les jeunes vénitiennes de Paul Véronèse. Les traits étaient jolis, mais pas très distingués. Pour son cœur, il était à peu près l'opposé de ce que l'on se figure comme étant le cœur italien. Le sien était parfaitement étranger à tout ce que l'on appelle émotion tendre et enthousiasme. Et cependant, elle passait sa vie à jouer ses sentiments. Lucien l'avait trouvé 10 fois s'apitoyant sur les infortunes de quelques prêtres prêchant l'évangile à la Chine, ou sur la misère de quelques familles appartenant dans sa province à tout ce qu'il y a de mieux. Mais dans le secret du cœur de madame Grandet, rien ne lui semblait bas, ridicule, bourgeois en un mot, comme d'être attendri. Elle voyait en cela la marque la plus sûre d'une âme faible. Elle lisait souvent les mémoires du cardinal de Retz. Ils avaient pour elle le charme qu'elle cherchait vainement dans les romans.
le rôle politique de mesdames de Longueville et de Chevreuse était pour elle ce que sont les aventures de tendresse et de danger pour un jeune homme de 18 ans. « Quelles positions admirables !» se disait Madame Grandet. « Si elles eussent su se garantir de ces erreurs de conduite qui donnent tant de prise sur nous !» L'amour même, dans ce qu'il y a de plus réel, ne lui semblait qu'une corvée, qu'un ennui. C'était peut-être à cette tranquillité d'âme qu'elle devait son étonnante fraîcheur, ce teint admirable qui la mettait en état de lutter avec les plus belles allemandes, et un air de jeunesse et de santé qui était comme une fête pour les yeux. Aussi aimait-elle à se laisser voir à 9 heures du matin, au sortir de son lit. C'est alors surtout qu'elle était incomparable. Il fallait songer au ridicule du mot pour résister au plaisir de la comparer à l'aurore. Aucune de ses rivales ne pouvait approcher d'elle sous le rapport de la fraîcheur des teintes. Aussi son bonheur était-il de prolonger jusqu'au grand jour les bals qu'elle donnait et de faire déjeuner les danseurs au soleil, les volets ouverts. Si quelque jolie femme, sans se douter de ce coup de Jarnac, était restée, à l'étourdie, entraînée par le plaisir de la danse, Madame Grandet triomphait. C'était le seul moment dans la vie où son âme perdit terre, et ces humiliations de ses rivales étaient l'unique chose à quoi sa beauté lui sembla bonne. La musique, la peinture, l'amour, lui semblaient des niaiseries inventées par et pour les petites âmes. Et elle passait sa vie à goûter un plaisir sérieux, disait-elle, dans sa loge aux bouffes. Car, avait-elle soin d'ajouter, les chanteurs italiens ne sont pas excommuniés. Le matin, elle peignait des aquarelles avec un talent vraiment fort distingué. Cela lui semblait aussi nécessaire à une femme du grand monde qu'un métier à broder, et bien moins ennuyeux. Une chose marquait qu'elle n'avait pas l'âme noble. C'était l'habitude, et presque la nécessité, de se comparer à quelque chose ou à quelqu'un pour s'estimer ou se juger, par exemple aux nobles dames du faubourg Saint-Germain. Elle avait engagé son mari à la conduire en Angleterre pour voir si elle trouverait une blonde qui eût plus de fraîcheur, et pour savoir si elle aurait peur à cheval. Elle avait trouvé dans les élégants country seats où elle avait été invitée l'ennui, mais non le sentiment de la crainte. Quand Lucien lui fut présenté, elle revenait d'Angleterre, et son séjour en ce pays venait d'envenimer le sentiment d'admiration voisin de l'envie qu'elle éprouvait pour la noblesse d'origine. Son âme n'avait pas la supériorité qu'il faut pour chercher l'estime des gens qui estiment peu la noblesse. Madame Grandet n'avait été en Angleterre que la femme d'un des justes milieux de Juillet les plus distingués par la faveur de Louis-Philippe. Mais à chaque instant, elle s'était sentie une femme de marchand. Ses 100 000 livres de rente, qu'il a tirées si fort du père à Paris, en Angleterre n'étaient presque qu'une vulgarité de plus. Elle revenait d'Angleterre avec ce grand souci. Il faut n'être plus une femme de marchand et devenir une Montmorency. Son mari était un gros et grand homme de 40 ans, fort bien portant, et il n'y avait pas de veuvage à espérer. Mais elle ne s'arrêta pas à cette idée. Sa grande fortune l'avait éloignée de bonheur, et par orgueil, des voies obliques, et elle méprisait tout ce qui était crime. Il s'agissait de devenir une Montmorency sans rien se permettre que l'on ne pût avouer. C'était comme la diplomatie de Louis XIV quand il était heureux. Son mari, colonel de la garde nationale, avait bien remplacé les Rohan et les Montmorency, politiquement parlant, mais quant à elle, personnellement, sa fortune était encore à faire. Qu'est-ce qu'une Montmorency, à peine âgée de 23 ans et avec une immense fortune, ferait de son bonheur? Et même, ce n'était pas encore là toute la question. Ne fallait-il pas faire encore autre chose pour arriver à être regardée dans le monde, à peu près comme cette Montmorency l'eût été? une haute et sublime dévotion, ou bien avoir de l'esprit comme Madame de Staël, ou bien une illustre amitié, devenir l'ami intime de la reine ou de Madame Adélaïde, et une sorte de Madame de Polignac de 1785, être ainsi à la tête de la cour des femmes et donner des soupers à la reine. Ou bien il fallait au moins une illustre amitié dans le faubourg Saint-Germain. Toutes ces possibilités, tous ces partis, occupaient tour à tour son esprit et l'accablaient, car elle avait plus de persévérance et de courage que d'esprit. Et elle ne savait pas se faire aider. Elle avait bien deux amies, mesdames de Thémines et Toniel, mais elle n'accordait sa confiance que pour une partie seulement des projets qui l'empêchaient de dormir. Plusieurs des idées dont nous avons parlé, et des plus brillantes encore, dont la possibilité absolue s'était présentée à son ambition, étaient hors de toute probabilité. Quand Lucien lui fut présenté, il la trouva faisant la Madame de Staël, et de là le dégoût que nous lui avons vu pour son effroyable bavardage à propos de tout et sur tous les sujets. Un peu avant le voyage de Lucien à Nancy, Madame Grandet, ne voyant rien se présenter pour la mise à exécution de ses grands projets, s'était dit « Ne serait-ce pas négliger un avantage actuel et perdre une grande chance de distinction que de ne pas inspirer quelque grand amour célèbre par le malheur de l'amoureux ? Ne serait-il pas admirable, dans toutes les suppositions, qu'un homme distingué alla voyager en Amérique pour m'oublier, moi qui ne lui accorderai jamais un instant d'attention ?» Cette grande question avait été mûrement pesée, sans le moindre grain de faiblesse féminine, et même d'autant plus sévèrement pesée, qu'elle avait toujours été l'écueil des femmes dont Madame Grandet admirait le plus la fortune et la façon d'être dans le monde et la niche qu'elle s'était faite dans l'histoire. « Ce serait négliger un avantage actuel et bien passager, s'était-elle dit enfin, que de ne pas inspirer une grande passion. Mais le choix est scabreux. Que n'ai-je pas fait pour conquérir simplement pour ami un homme qui fut de haute naissance ? Les agréments, la jeunesse, et à plus forte raison, la fortune, n'ont rien été pour moi. Je ne voulais qu'un sang pur et une réputation sans tache. Mais aucun homme appartenant à l'ancienne noblesse de cour n'a voulu prendre ce rôle. Comment espérer d'en trouver un pour celui d'un être parfaitement infortuné, de l'amoureux, en un mot, de la femme d'un fabricant enrichi ? Ainsi se parlait Madame Grandet. Elle avait cette force, elle ne ménageait point les termes en raisonnant avec soi-même. C'était l'invention, c'était l'esprit proprement dit que l'on ne trouvait point chez elle. Elle repassait dans sa tête toutes les démarches et presque toutes les bassesses qu'elle avait faites. En vain avait-elle fait des bassesses pour voir plus souvent deux ou trois hommes de cette volée que le hasard avait fait paraître dans son salon. Toujours après deux ou trois mois, ces nobles messieurs avaient rendu leurs visites plus rares. Tout cela était vrai, et il n'en était pas moins convenable d'inspirer une grande passion. Ce fut dans ces circonstances intérieures, tout à fait inconnues à M. Leven, père, qu'un matin, Madame de Thémines vint passer une heure avec sa jeune amie pour deviner si ce cœur était occupé de notre héros. Après avoir reconnu et ménagé l'état de sa santé ou de son ambition, Madame de Thémines lui dit « Vous faites des malheureux, ma belle. Eh bien, vous choisissez. » « Je suis si éloignée de choisir, » répondit fort sérieusement Madame Grandet, « que j'ignore jusqu'au nom du malheureux chevalier. Est-ce un homme de distinction ?» La naissance seule lui manque. Trouve-t-on de vraiment bonnes manières sans naissance ? Répondit-elle avec une sorte de découragement. Que j'aime le tact parfait qui vous distingue ! S'écria Madame de Thémines. Malgré la plate adoration qu'on a pour l'esprit, pour cette eau forte, cet acide de vitriol qui ronge tout, vous n'admettez point l'esprit comme compensation des bonnes manières. Ah, que vous êtes des nôtres! mais je croirais assez que votre victime nouvelle a des manières distinguées. Il est vrai qu'il est habituellement si triste depuis qu'il vient ici, qu'il n'est pas bien sûr d'en juger. Car c'est la gaieté d'un homme, c'est le genre de ses plaisanteries et sa manière de les dire qui marque sa place dans la société. Mais pourtant, si celui que vous rendez malheureux appartenait à une famille, on le placerait indubitablement au premier rang. « Ah ! C'est Monsieur Leven, le maître des requêtes !»« Eh bien, est-ce vous, ma belle, qui le conduirez au tombeau ?»«
Ce n'est pas l'air malheureux que je lui trouve, » dit Madame Grandet.
« C'est l'air ennuyé. »
On ajouta à peine quelques mots. Madame de Thémines laissa tomber le discours sur la politique et dit à propos de quelque chose.
« Ce qui est du dernier choquant et ce qui décide de tout, c'est la bourse où votre mari ne va pas. »
« Il y a plus de 20 mois qu'il n'y a mis les pieds, » dit Madame Grandet avec empressement.
« Ce sont les gens que vous recevez chez vous qui font et défont les ministres.
Mais je suis bien loin de recevoir exclusivement ces messieurs. »
Du même ton piqué. « Ne désertez pas une belle position, ma chère, et entre nous, » dit-on en baissant la voix, et d'un ton d'intimité. « Ne prenez pas pour l'apprécier les paroles des ennemis de cette position. Déjà une fois sous Louis XIV, comme le rabâche sans cesse ce méchant duc de Saint-Simon, que vous aimez tant, les bourgeois ont pris le ministère. Qu'était Colbert, Séguier, et à la longue, les ministres font la fortune de qui ils veulent. Et qui fait les ministres aujourd'hui? Les Rothschild, les Leven. À propos, n'est-ce pas M. Pozzo di Borgo qui disait l'autre jour que M. Leven avait fait une scène à M. le ministre des Affaires étrangères à propos de son fils? Ou bien c'est le fils qui, au milieu de la nuit, est allé faire une scène à ce ministre?
Madame Grandet dit tout ce qu'elle savait. C'était la vérité à peu près, mais racontée à l'avantage des Leven. Là encore, il n'y avait pas trace d'intérêt ou de relation particulière, plutôt de l'éloignement pour l'air ennuyé de Leven. Le soir, Madame de Thémines crut pouvoir rassurer M. Leven et lui dire qu'il n'y avait ni amour ni galanterie entre son fils et la belle Madame Grandet.